L'évangile de Marc, chapitre 9, les versets 33. En fait, pardon, on va commencer plutôt au 30, verset 30, au verset 51. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand, donc parmi eux. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, qui ne fait pas partie de notre groupe de Jésus et les 12 apôtres. Et nous l'en avons empêché. » Parce qu'il ne nous suit pas. Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, un verre d'eau, ah ben ça tombe bien. Un verre d'eau, bon, elle voulait avoir la récompense. Un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Eh bien, voilà pour elle. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, une occasion de chute, c'est-à-dire il le tente de pécher ou de ne plus croire en Christ, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour d'un cou, imaginez-vous là, entendre ces paroles. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Il parle de l'enfer. Où leur ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir des deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgneux dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Cette section de l'évangile de Marc qui commence en fait au verset 27 du chapitre 8 et qui continue jusqu'au verset 52 du chapitre 10 est une des quelques 5 ou 6 sections assez visibles et démarquées de l'évangile de Marc. Et cette section a la particularité de parler surtout de la croix de Jésus et de l'implication de sa croix pour celui qui veut être son disciple. La croix et la vie de disciple. Le Jésus qui s'humilie, qui sert les autres et qui meurt, et moi qui dois le suivre, lui, et être comme lui. C'est ça le message de cette partie importante de l'évangile de Marc. Alors, il faut savoir que Marc n'a pas écrit comme ça au hasard. Il a donné une structure très réfléchie, selon ceux qui ont pris le temps d'étudier en profondeur son évangile. Et on se rend compte que dans cette section, 8, 27 jusqu'au 10, 51, il y a trois cycles qui ont trois parties. C'est-à-dire, trois fois dans cette section de l'évangile de Marc, Marc parle d'abord du fait que Jésus prédit sa mort, et il prédit sa mort trois fois dans la section, parce que ça s'est passé comme ça. Deuxièmement, après cette prédiction, les disciples font échec. Ils font vraiment des bêtises. Et troisièmement, après la prédiction que Jésus fait de sa mort et le fait que les disciples font ce qui n'est pas bien, troisièmement, Jésus saisit cette occasion de l'échec des disciples pour leur expliquer ce que c'est qu'être disciple. Et le coût, surtout le coût que ça va exiger. Donc, dans notre passage aujourd'hui, vous voyez que dans les versets 30 et suivants, Jésus prédit sa mort. On peut le lire encore, verset 31. « Car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de le questionner. Comme je vous ai dit, ça ne rimait pas avec leur idée du Messie juif, du Sauveur qui devait venir. Pour eux, c'était les miracles, le pouvoir, la délivrance de l'oppression de l'Empire romain, etc. Tout ce qui est fort et tout ce qui est bon pour moi. C'est ça que le Messie va venir m'apporter. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de parler du fait que lui, il sera livré à la crucifixion, la chose la plus horrible qui puisse arriver? Le Messie, le Fils de l'homme, ils ne comprenaient pas. Ça ne pouvait pas être logique dans leur pensée. Donc, nous voyons, après cette prédiction, qu'il y a un échec des disciples. Nous avons étudié l'échec la fois passée, au moins le début de cet échec. Verset 33, « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand parmi eux. Un péché énorme, une violation absolue de tout ce que Jésus était, tout ce qui signifiait, tout ce qu'il voulait que nous soyons. On est en train de disputer amèrement, et apparemment c'est tellement fort que ils sont fâchés, ils sont indignés les uns avec les autres, d'après les autres évangiles. Et donc, voilà l'échec des disciples. L'échec continue, parce que Jésus, comme je vous ai dit dimanche passé, il les enseigne au sujet du vrai serviteur, du vrai disciple, qui, je reviendrai tout à l'heure à cela, mais l'échec continue parce que dans le verset 38, après que Jésus prend cet enfant, il le met au milieu, il dit « Celui qui reçoit l'enfant me reçoit », Jean intervient. Et Jean, un des trois les plus proches à Jésus, dit ceci au verset 38. « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas. Vous avez fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. » Et Jésus doit maintenant enseigner encore et leur donner trois raisons pour lesquelles il n'aurait pas dû voir cet homme comme un rival, comme une menace qu'il fallait arrêter. Donc nous voyons, Jésus annonce sa mort, les disciples font un échec, et ce que vous devez comprendre, c'est que ces échecs sont la manifestation du fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi Jésus doit mourir. Pourquoi le Messie, Dieu lui-même, se faisant homme, devient non pas un grand roi de prestige, mais plutôt un serviteur qui se livre à la mort. Ils ne comprennent pas ça. Et donc, puisqu'ils ne comprennent pas leur modèle, ils suivent un autre modèle. Et ce qu'ils visent en tant que disciples de Christ est bancal. Être le plus grand, empêcher les autres parce qu'ils ne font pas partie de notre clique. Et tout est maladroit, mauvais et déplaisant pour le Seigneur. Donc, nous voyons que à la fin du passage de ces deux échecs qui sont joints, donc la dispute sur la grandeur et essayer d'empêcher un autre qui chasse les démons, Jésus leur donne un long enseignement à partir du verset 42 au sujet du fait d'être une occasion de chute. Et donc nous allons voir cela. Mais prédiction de sa mort, échec, enseignement de Jésus pour les corriger, pour les illuminer, pour qu'ils ne restent pas dans ces attitudes tellement opposées au royaume de Dieu. Nous devons avouer que ça nous concerne parce que même si nous sommes pour beaucoup d'entre nous convertis, il y a quelque chose, et eux ils étaient convertis, les disciples, ils croyaient, mais nous avons quelque chose de profond qui reste encore dans notre nature pécheresse, qui nous pousse à aller contre Dieu, contre sa volonté, contre son modèle et contre son plan. Et ce quelque chose en nous, on appelle le péché, mais nous pouvons l'appeler ça aussi l'ambition de grandeur. L'ambition de grandeur. Le désir de prestige ou bien le besoin de reconnaissance. On a toutes sortes de jolis termes, n'est-ce pas ? Avec lequel on peut enrober ça. Mais tout cela, c'est des moyens pour s'élever, pour être quelque chose. Et ça cause tous les problèmes. Ça détruit la manière dont Dieu veut que l'homme vive. Rappelez-vous que les disciples étaient à cette époque prêts à souffrir de grands sacrifices pour Christ, pourvu que dans le royaume, il soit récompensé de beaucoup de prestige. D'accord? N'allez jamais dire, chers amis, que quelqu'un doit être chrétien ou spirituel parce qu'il est prêt à se sacrifier beaucoup pour Jésus-Christ. Il n'en est rien. Il n'en est rien. La vraie spiritualité se situe complètement ailleurs, dans ce cœur d'humilité de quelqu'un qui est prêt à être le dernier de tous afin de servir les autres et ne pas être servi par eux. Demandez si vous-même ou si cette personne dont vous pensez a cette attitude. Et là, vous allez arriver vraiment au cœur de ce que c'est que être chrétien. Véritablement. Nous voyons donc que tous ces discours au sujet de sa mort, ça perturbe les disciples. Et même l'idée que Jésus puisse être un serviteur les perturbe, les dérange. Ce n'est pas bien. Je vous donne un petit exemple de cette pensée humaine et pécheresse et tordue. Vous savez que dans l'islam, on nie le fait que Jésus, qui est prophète pour les musulmans, puisse avoir été crucifié. Et les musulmans m'ont expliqué que la raison pour laquelle cela est impossible, c'est qu'un prophète de Dieu ne peut pas être humilié. Voyez-vous? C'est l'esprit des disciples. Le Messie, le prophète, doit être grand, pas serviteur. Pas quelqu'un qui se laisse humilier comme ça. Et nous voyons que dans notre profond péché, nous voulons être grands. Nous pensons que Dieu, c'est le Dieu qui est surtout grand. Et si nous sommes comme lui, nous aussi, nous sommes quelque chose. Et donc l'islam ne peut pas supporter et ne peut pas comprendre comment le point culminant de l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisse être une humiliation volontairement embrassée et subie. Ben, c'est comme ça. Mais nous aussi, nous avons les mêmes problèmes que nos amis musulmans. Parce qu'au fond de nous, nous sommes toujours, n'est-ce pas, en train de lutter avec cette manière de voir la vie où j'ai soif d'avoir une importance, d'être reconnu. Et lorsque je fais quelque chose de bien pour le royaume de Dieu, quelque chose d'important, si vous écrivez un livre chrétien, par exemple, qui se vend, qui se lit, là, vous avez le sentiment que, ah, oui, enfin, n'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes content de vous-même en tant que chrétien, parce que votre idée de chrétien est liée à la grandeur. À la grandeur, à l'importance, au fait de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors que Jésus dit que le vrai disciple, c'est celui qui peut descendre et faire ce qui est ordinaire, recevoir cet enfant dans tes mains. Jésus bouleverse tout, n'est-ce pas? Il bouleverse tout, absolument. Il bouleverse tout par ce qu'il est. Parce que d'abord, c'est lui qui est ça. Et ensuite, il nous appelle à l'imiter. Donc, un maître unique qui demande une vie radicalement unique. Ok, nous allons, avec cette longue introduction, maintenant regarder. Et d'abord, le premier point, c'est un point de révision. Vivre sous la croix, et quand je dis sous la croix, je veux dire vivre à la suite de Jésus, qui volontairement prend la croix et s'humilie pour être serviteur. Ok, c'est une phrase un peu un jargon, hein, vivre sous la croix. Mais je veux dire vivre, suivre Christ dans son humiliation, dans son cœur de serviteur. Vivre sous la croix, c'est la fin de la recherche de prestige. Nous l'avons vu donc la semaine passée et donc, nous voulons juste dire que si vous voulez être chrétien, et le Seigneur vous appelle à le devenir, alors c'est un appel à mourir à la recherche de prestige. Et vous savez que le prestige, la reconnaissance, que tout le monde pense quelque chose de bien de moi, rechercher ça, que ce soit mon envie dans la vie, c'est diabolique. C'est satanique. Et c'est satanique parce que quand tu cherches le prestige, qui est la cible? Qui est le but de tes actions? Toi-même. N'est-ce pas? Je fais une chose, ça peut être même aider quelqu'un. ça peut être quelque chose de bien. Mais derrière, le but, c'est que je sois reconnu. Je veux que les gens voient ça, n'est-ce pas? Et le but de mes actions étant moi-même, je suis vraiment un fils du diable. Parce que il a essayé de remplacer Dieu comme le but de nos actions pour être lui-même son propre Dieu et son propre but. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que en faisant des actions, même des bonnes choses, derrière ton but, au moins en partie, c'est toi-même? C'est le prestige. Deuxièmement, vivre sous la croix, c'est la fin de l'exclusivisme. Oui, la fin du prestige personnel, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de servir. Mais deuxièmement, c'est la fin d'être exclusif. Nous voyons donc dans les versets 38 et suivants que Jean pensait avoir bien fait. Il annonce même, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et comme il ne nous suit pas, nous l'avons empêché. » Très bien. Voilà un homme possédé par un démon qui n'a pas été délivré. À cause de toi, Jean. Merci, t'as bien fait. Tu penses que cet homme qui était affligé par le démon était content? Que tu as empêché ce monsieur de le délivrer? Très bien. Tout cela pourquoi? Parce que il ne nous suit pas, Jean dit. Est-ce que vous voyez la différence des pronoms? Jean dit, nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus dit, en réponse, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom qui puisse aussitôt après parler mal de moi. » Pas nous, moi. Ne l'empêchez pas, parce que sa relation avec moi, est ce qu'il faut. En d'autres termes, nous devons mourir à cette habitude que nous avons de former notre identité autour de nous-mêmes et notre groupe. Nous sommes des réformés baptistes. Nous pouvons, comme tout le monde, facilement le faire. Et regarder ceux qui ne sont pas réformés baptistes, qui sont même des chrétiens d'autres groupes, les regarder un peu, n'est-ce pas? Un peu avec dédain. Ou au moins, si c'est pas un dédain, les regarder comme des gens qui sont... Bon, leur identité, c'est qu'ils sont pas avec nous. N'est-ce pas? Donc, on forme toute une manière de voir. Il y a le « nous » et « vous ». Et on catégorise tout le monde, pas autour de Jésus. Est-ce qu'il est à Jésus? Est-ce qu'il aime le Sauveur? Est-ce qu'il suit celui que Dieu a envoyé pour qu'on le suive? Oui. Ben, il fait partie de la même famille que moi. Voilà. Mais non, nous formons nos identités au sujet de, non pas Jésus et celui qui s'attache à lui, mais qui est-ce qui s'attache à notre groupe? Et nous voyons le même principe à l'œuvre, n'est-ce pas? Ce principe de vouloir faire tourner les choses autour de nous-mêmes. Mais Jésus dit non. Ce n'est pas comme ça que vous devez penser. D'abord, regardez un homme par rapport à son attachement à moi. Et deuxièmement, sachez que celui qui, maintenant il change de pronom, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne le regardez pas comme faisant quelque chose qui vous menace. Lorsque quelqu'un d'autre, une autre église, amène des gens à Jésus-Christ, c'est pas une menace pour nous. C'est notre équipe qui a marqué un but. Voilà, pour ainsi dire. Et nous devons changer notre manière de voir. Afin de vivre sous la croix. Mais ça demande la mort. La mort de notre tendance constante d'être égoïste. Troisièmement, sans vivre sous la croix, nous serons l'instrument de Satan pour faire trébucher les autres. Dans le verset 42, Jésus dit, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, rappelez-vous, il vient de prendre un petit enfant dans ses bras, et par là, il veut parler non pas simplement des enfants littéraux, mais aussi toute personne insignifiante qui croit en Christ. D'accord? Nous le savons parce que Matthieu l'explique dans son évangile. Donc, cet enfant est aussi un symbole pour tout chrétien, surtout ceux qui sont vulnérables, sans importance. Ok? Et donc, Jésus dit, si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, et là je pense qu'il veut dire une occasion de... S'il y a quelque chose dans ta vie, c'est symbolique, hein, Jésus ne veut pas qu'on coupe véritablement la main, parce que c'est pas vraiment la main qui est ton problème. Si tu voles, c'est pas la main, c'est dans le cœur que le problème se situe. Ok, c'est imagé, mais Jésus veut dire que s'il y a quelque chose dans ta vie qui amène à la chute, la tienne, parce que toi tu pèches, et aussi la chute des autres. S'il y a quelque chose dans ta vie qui t'amène à ne pas recevoir le petit enfant ou le croyant sans importance et l'aider à croire plus, à s'attacher plus, si dans ta vie tu es quelqu'un qui amène les gens à questionner est-ce que c'est vrai le christianisme? Est-ce que c'est vrai le Christ? Est-ce que c'est vrai cette vie chrétienne? Il vaut mieux qu'on t'attache une pierre autour du cou et qu'on te jette dans la mer, parce que le jugement dernier sera pire que Sodome et Gomorre pour les personnes qui entraînent d'autres vers la perdition. Et nous avons là un des passages les plus solennels, hein, une des propos les plus solennels de notre Seigneur qui doivent nous réveiller, les frères et sœurs. En refusant de mourir à nous-mêmes, si nous avons des disputes entre nous comme les disciples, si nous empêchons d'autres, si nous agissons, nous pouvons bien amener des gens qui considèrent le christianisme, qui réfléchissent, est-ce que c'est vrai, nous pouvons les amener à se détourner du christianisme. Moi, je l'ai vu trop de fois déjà, des gens qui prétendent être chrétiens, qui sont la majeure raison pour laquelle des gens qui étaient intéressés tournent le dos à l'évangile. C'est fou, n'est-ce pas? C'est pas à cause des non-chrétiens que ces gens cessent de penser au christianisme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous qui professons le nom de Christ. Et Jésus donne un avertissement solennel. Et il nous dit que la personne qui entraîne les autres à la chute, cette personne va périr lui-même. Elle-même, pardon. Je ne veux pas dire par là que si j'ai péché une fois de manière irréfléchie, mais Jésus parle d'un style de vie, de ce que tu es. Si tu es quelqu'un qui entraîne les autres à leur chute. Parce que si je pêche, je me fâche devant quelqu'un qui est un croyant vulnérable ou quelqu'un qui veut penser à chercher un peu dans le christianisme, et puis je me suis fâché. Bon, je me reprends, je demande pardon, et ça ne les enlève pas du chemin, n'est-ce pas? Au contraire, ça les aide à voir que ouais, il y a quelque chose de vrai dans... Il est capable de reconnaître ses fautes. Mais moi, je veux dire que quelqu'un qui vit dans la faute, qui est dédaigneux, qui ne reçoit pas les gens sans... qui est hautain, qui pense qu'être chrétien, c'est être grand, c'est être quelqu'un. Et tout cela, il y a des gens qui l'adoptent. J'en parle dans une de ses épîtres au sujet d'un monsieur qui voulait être premier dans l'église et qui cause beaucoup de problèmes. Et Jésus est en train de dire que si vous ne prenez pas des mesures radicales, coupez la main, coupez le pied, arrachez l'œil, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut, qui est coûteux, qui fait mal d'enlever cette attitude de ta vie, qui fait chuter les autres. Alors, si tu n'es pas prêt à suivre ce chemin qui est coûteux, qui est douloureux, pour devenir humble et serviteur des autres, tu périras. C'est aussi simple que cela. Il y a deux options. Soit tu reçois les petits, les croyants, tu es à leur service, soit tu ne les reçois pas, tu ne les sers pas et tu les refoules. Vivre sur la croix, quatrièmement, c'est prendre absolument au sérieux le fait de pécher et faire pécher les autres. Là, c'est un sous-point, c'est lié bien sûr à ce que je viens de dire, mais j'en fais un point à part parce que je voudrais simplement vous montrer que être un serviteur, avoir cette attitude où je veux être non pas le premier, mais le dernier. Je cherche dans ma vie à devenir le dernier qui sert tous les autres. Ça, c'est pas une forme de spiritualité qui est pour les chrétiens élites. Jésus est en train de dire que vous devez tous chercher de tout votre cœur cela, sinon vous n'êtes pas dans la foi et vous êtes en train de détruire le royaume de Dieu par cette attitude contraire. Le Seigneur ne peut pas être plus fort dans ce qu'il dit. Nous voyons que c'est une réalité que Dieu, chers amis, est fâché, en colère, une colère infinie contre ceux qui refusent de suivre son Fils dans son humiliation et son attitude de serviteur. Et il dit que ces personnes vont aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. C'est-à-dire le ver est image de quelque chose au-dedans de moi qui ne cesse jamais de me manger, de me dévorer. Et probablement une référence à ces vains regrets et remords sans repentance des gens à l'enfer qui voient tout ce qu'ils ont fait, qui voient que toute leur vie était contre la manière dont Dieu voulait qu'on vive, contre le royaume de Dieu, par un principe complètement opposé. Et maintenant, ils doivent vivre avec ça, qu'ils ont vécu dans les ténèbres, qu'ils ont renié le Créateur et le Sauveur. Et le feu, c'est cette souffrance extérieure dans l'enfer où les gens qui seront à l'enfer vont être comme des gens brûlés, où le feu ne s'éteint jamais, 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 et c'est éternel. Et cela, chers amis, est très difficile de comprendre, je suis d'accord. Mais je ne l'ai pas inventé, c'est Dieu qui le dit, et nous verrons un jour que c'est exactement ce que mérite le péché. Rappelons-nous que le péché, c'est pas simplement manquer le but un peu, manquer la cible un peu, j'aurais dû être gentil et j'étais un peu moins. Le péché, c'est faire le contraire, c'est détruire la sorte d'humanité que Dieu a voulu pour le remplacer par une contrefaçon satanique. Empêcher quelqu'un d'être délivré. Disputez, divisez-vous par des disputes sur qui est le plus grand. Tout cela, n'est-ce pas ce qui cause, c'est ce qui cause les guerres entre les nations. Ce même esprit, ce même recherche de grandeur, cette même recherche de la place, d'avoir ce qui est à l'autre, n'est-ce pas? C'est ce qui est derrière le racisme et tous les problèmes sociaux que nous avons. C'est un enfer que ça cause et que c'est un enfer que ça mérite. Maintenant, soyons clairs avant d'aller au dernier point. Sans ce feu purificateur de Dieu qui va nous changer, qui va nous aider à mourir à tout cela, nous aurons le feu de la punition éternelle. Ça nous amène au dernier point. Vivre sous la croix, c'est expérimenter pendant toute ta vie, sous terre, le feu de la purification divine. Maintenant, regardez, au verset 48, Jésus termine cette partie sur les gens qui font chuter les autres en disant qu'ils sont là où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, le feu du jugement. Mais regardez ce qu'il dit après. Car tout homme, ou bien en grec c'est pas tout homme, c'est tous, et probablement ça veut dire tous les croyants, parce que le contexte, donc c'est les croyants, car tous seront salés de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? En toute probabilité, Jésus est en train de faire référence à quelque chose que les Juifs auraient compris tout de suite lorsqu'il dit « Tous seront salés de feu ». Dans le livre de Lévitique, les Juifs ont reçu une instruction de la part de l'Éternel qui leur disait que tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation et tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel de l'alliance de ton Dieu sur toutes les oblations que tu présenteras du sel, c'est-à-dire les animaux. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis rôtis, etc. et dans des instructions au sujet de la manière de présenter cet animal. Le sacrificateur brûlera comme mémorial une portion du groin broyé et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Vous savez qu'au moins une partie de tous les sacrifices était brûlée par le feu, mais brûlée avec du sel là-dessus. Et le sel dans l'Ancien Testament était un symbole de quelque chose qui conserve, n'est-ce pas, qui empêche de pourrir. C'est pour ça qu'on ne devait jamais mettre, selon le livre de Lévitique, du miel sur un animal sacrifié, parce que le miel amenait à pourrir et était en fait une image du péché qui fait pourrir, qui nous fait pourrir là-dedans, dans notre cœur et notre vie. Et donc, quand Jésus nous dit dans ce passage « Tous seront salés de feu », il nous dit que nous, les croyants, nous sommes des sacrifices vivants. C'est nous qui devons maintenant être offerts à Dieu. Notre vie pour nous-mêmes, c'est fini. Nous sommes offerts à Dieu pour être maintenant à lui. On vit pour lui, comme un sacrifice. Mais ce sacrifice doit être salé. Mais la seule manière de le saler, de vous saler, vous, et de vous enlever de vos attitudes mauvaises et égoïstes comme moi, c'est par le feu, et non pas juste du sel littéral. Tous seront salés de feu, mais pas le feu de l'enfer. Il parle ici d'un autre feu. Il parle, et nous le voyons ailleurs dans la Bible, c'est le feu du Saint-Esprit qui nous baptise. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Et aussi, le feu qui purifie est utilisé pour les épreuves. Ne soyez pas étonnés de ce feu, dit Pierre, que vous allez subir les épreuves. Le Seigneur nous dit que tout disciple de Jésus-Christ sera salé de feu. On ne peut pas dire qu'il y a des chrétiens qui ne deviennent pas des serviteurs, une attitude de serviteur. Il y en a qui restent orgueilleux, cherchant la première place. On ne peut pas dire ça. Tous seront salés de feu. C'est-à-dire, tout vrai disciple passe par ce feu qui détruit en nous ce qui est orgueilleux et ce que Dieu ne peut pas supporter. Si vous n'êtes pas passé par ce feu, si vous ne passez par ce feu qui ne permet pas que ça continue, vous n'êtes pas à Christ. Tous seront salés de feu. Et ça parle de cette expérience d'arracher la main, d'arracher le pied, d'arracher l'œil. Sous la pression du Saint-Esprit qui travaille dans notre vie, nous voyons que je dois arrêter ça. Je l'aime, je vais mourir si j'arrête cette attitude ou cette démarche ou cette perspective. Je vais mourir, je dois. Oui, tu vas mourir, justement. Justement. Sinon, tu n'es pas à moi, tu vas à l'enfer. Parce que tu es satanique dans ta manière de vivre selon le principe « Tout tourne autour de moi » et Dieu dit « Je ne peux pas supporter cela. Je ne peux pas vous supporter tant que vous êtes comme ça. » C'est comme ça, chers amis. C'est comme ça. Donc, feu purificateur, on arrache le pied, on arrache l'œil. Sous la pression, le travail du Saint-Esprit, les épreuves parfois qui nous viennent, qui nous poussent à changer, à dire non à nous-mêmes, à nous donner à Dieu, à faire en sorte que la vie ne tourne plus autour de moi et ma soif égoïste et satanique de reconnaissance. Le feu est absolument nécessaire pour nous préparer à la vie éternelle. Mais le feu est absolument nécessaire aussi pour parvenir à la paix entre nous. Le passage a commencé avec une dispute, n'est-ce pas? Ça n'allait pas entre les disciples. Le passage termine, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ou bien on pourrait dire, « Ayez du sel en vous-même afin d'être en paix les uns avec les autres. » C'est-à-dire, si je vis cette expérience où je suis salé de feu, où le sel d'une vie différente, qui s'humilie, qui cherche à être le dernier et pas le premier, si cela est en moi, ce sel-là va faire en sorte qu'il y a des relations harmonieuses, parce qu'il n'y a aucun de nous qui cherche à être le premier. Tous cherchent à servir les autres. Ben ça, c'est une recette parfaite pour l'harmonie, n'est-ce pas? Ça y est, c'est bon. Tous nos problèmes viennent quand nous refusons ce sel purificateur et nous cherchons à être exclusif. Tu ne fais pas partie de mon groupe. Ou je cherche le prestige, c'est moi qui suis le plus grand. Tous nos problèmes et toutes les chutes que nous causons autour de nous viennent de là. Donc voilà, c'était difficile. On a dû couvrir beaucoup de territoire, mais cela tient tous ensemble. Et j'espère que à la fin, vous avez au moins cette conviction claire. Il faut absolument que moi, je cherche le reste de ma vie, de tout mon cœur, être le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est la seule manière d'appartenir à Christ et de servir son royaume. Nous allons chanter.
Merci. 216 dans le recueil. 216.